autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, pour nous interroger sur la catastrophe nucléaire de Fukushima. 7 ans après, que s'est-il exactement passé à l'intérieur de la centrale entre le 11 et le 15 mars 2011 ? Comment le directeur Masao Yoshida, aujourd'hui décédé, comment ses équipes ont réussi, en transgressant toutes les procédures et autres recommandations officielles, à éviter le pire, c'est-à-dire l'explosion de la centrale ? Pourquoi, face à la catastrophe, l'humain est et reste le dernier rempart ? Quelles leçons en tirer? Autant de questions mises en abîme par nos invités, chercheurs et spécialistes des risques et des crises, Amine Paritech, Franck Garnieri et Sébastien Travadel, qui ont décidé de traduire l'audition du directeur de la centrale, Masao Yoshida, un récit de Fukushima troublant et poignant qui vient de paraître aux presses universitaires de France, à la fois roman technique, scientifique et philosophique d'utilité publique, pour un catastrophisme éclairé autour de la question « Pourquoi et comment faire le récit de Fukushima ?» Bienvenue. Bonjour Franck Garnieri.
Bonjour.
Bonjour Sébastien Travadel.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager ce témoignage hors du commun, le récit du directeur de la centrale de Fukushima Daiichi, Masao Yoshida, l'homme qui a évité le pire. Franck Garnieri, vous êtes le directeur du Centre de recherche sur les risques et les crises Amine Paritech. Sébastien Travadel, vous êtes maître de conférence dans ce Centre de recherche sur les risques et les crises. Pourquoi a-t-il été essentiel pour vous deux de faire traduire, de rendre public et de publier ce témoignage, Franck Garnieri?
Parce qu'il est, historique. Il y a eu quelques grands accidents industriels et nucléaires dans le monde. 1979 aux États-Unis, TMI. 1986, plus près de nous, Tchernobyl. À chaque fois, il y a eu des enquêtes. À chaque fois, des commissions nationales et internationales ont produit des rapports. Les causes ont été avancées. Mais jamais, jamais, on a eu l'opportunité de saisir le témoignage du directeur de l'installation qui a fait face à l'accident. Personne aujourd'hui ne connaît le nom du directeur de la centrale américaine de TMI, ni celui de la centrale de Tchernobyl. Et aujourd'hui, nombreux sont les gens qui connaissent celui de Masao Yoshida. Donc c'est vraiment un témoignage de très très grande valeur.
Qui n'est pas seulement technique, qui est surtout humain. Hein.
Alors qui n'est pas seulement technique, qui est très humain. Et c'est un témoignage de grande valeur parce qu'en fait il aurait dû rester totalement confidentiel. Pour mémoire, donc l'accident a lieu en mars 2011. Dans la foulée de l'accident, une commission d'enquête, enfin deux commissions d'enquête japonaises, parlementaires et gouvernementales, des centaines, des milliers d'auditions. Et une clause particulière qui est demandée par l'exploitant, la société japonaise TEPCO, qui est un exploitant privé, c'est que les témoignages des salariés de la TEPCO restent confidentiels.
Donc l'audition, ce témoignage du directeur de la centrale, est resté officiel pendant de nombreuses années, jusqu'à sa mort.
Alors, ce témoignage est resté pendant... confidentiel.
Confidentiel, voilà, pardon.
Donc il est resté confidentiel pendant presque 2 ans. Et il aura fallu attendre septembre 2014. Donc il y a eu des fuites dans un grand quotidien japonais qui s'appelle Asahi Shimbun, qui a publié quelques pages, et dont certaines en anglais. Et en particulier un passage qui pose problème sur un ordre d'évacuation générale de la centrale de Fukushima Daiichi qui aurait été donné par Masao Yoshida. Et en fait, il s'est avéré que cet ordre n'a jamais été donné. Et pour prouver la bonne foi de Yoshida et de ses équipes, le gouvernement japonais a décidé de rendre publique une seule audition, celle de Yoshida, qui est monumentale au sens où elle représente 28 heures d'audition, une très belle garde à vue, et 400 pages de témoignages.
Alors vous avez choisi d'en publier des extraits, Sébastien Travadel. Pourquoi? Pour vous aussi, c'était fondamental pour l'histoire de nous donner à lire, à entendre, à méditer hein, ce témoignage?
Alors je dirais qu'il y a ces dimensions historiques et puis il y a aussi sa dimension scientifique, puisque pour nous, mettre en avant le récit de Masao Yoshida, ça relève aussi d'un geste scientifique assez original, puisque en sciences sociales, il est plutôt usuel de procéder à quelques dizaines d'entretiens en espérant chercher des invariants ou trouver des invariants parmi les entretiens et les récits des interviewés. Néanmoins, en procédant comme ça, l'essentiel du récit se trouve purgé. Et donc nous avons entrepris en parallèle, ou plutôt pour porter ce récit, ou à travers ce récit, nous avons entrepris un véritable travail épistémologique pour rétablir le statut du récit en science et pour voir en quoi cela pouvait être intéressant pour produire de l'information en matière de gestion de crise.
Autour de la question pourquoi et comment faire le récit de Fukushima, je vous propose d'abord d'écouter la voix justement de Masao Yoshida, du directeur de la centrale de Fukushima Daiichi. C'est un extrait d'une vidéo publiée le 17 août 2011, donc 6 mois après la catastrophe, sur le site de TEPCO.
Nous nous excusons sincèrement auprès de tous les résidents locaux, de la population de la préfecture de Fukushima et du public en général pour l'anxiété et les inconvénients causés par l'accident. Merci pour le soutien que nous avons reçu de nombreuses organisations et compagnies au Japon et de pays du monde entier. Nous avons achevé la première étape de notre plan de marche le mois dernier. Actuellement, nous travaillons sur la phase 2 pour stabiliser la centrale et permettre aux personnes évacuées de retourner chez elles dès que possible. De plus, les encouragements chaleureux que nous avons reçus, non seulement du Japon, mais aussi de pays tout autour du monde, ont été une grande inspiration pour nous.
Le directeur de la centrale de Fukushima Daiichi, donc Masao Yoshida, c'était 6 mois après la catastrophe de Fukushima. Aujourd'hui, il est décédé d'un cancer, des suites évidemment de ce qu'il a vécu. Il a vécu l'enfer dans cette centrale. C'était le directeur, il avait fait toute sa carrière chez TEPCO. C'est aussi un étonnant personnage, on peut dire comme ça, Franck Garnieri.
Il est très étonnant. Alors l'histoire, elle commence en 1951 avec la création de la TEPCO. Donc en fait, contrairement à la France, le marché de l'énergie au Japon, et en particulier celui du nucléaire, a été privatisé sous l'impulsion des Américains. Et donc il y a un certain nombre de compagnies qui se sont créées, dont la TEPCO. Donc la TEPCO exploite 3 centrales nucléaires, elle exploite aussi des centrales thermiques et des barrages hydroélectriques. Ça, c'est un point qui est important. Donc, 1951, Yoshida, après des études de génie atomique, donc arrive en 1979 à la TEPCO. Il participe au chantier de construction du réacteur numéro 2 de la centrale voisine de Daiichi, qui est Daini, qui a elle aussi été touchée par le séisme et le tsunami. Oui, voilà. Et donc, il va faire toute sa carrière à la TEPCO et il va faire des allers-retours entre le terrain et le siège. Il va occuper différents postes.
Donc c'était, on peut dire, la bonne personne au bon endroit, quelqu'un qui connaissait tous les rouages et de TEPCO et de ses centrales.
Oui, complètement. C'est à la fois sa force et sa faiblesse. Alors pourquoi c'est sa force et sa faiblesse? Donc il est nommé à la direction de Fukushima Daiichi quelques mois avant le séisme et le tsunami. Donc il revenait d'un poste au siège. Et ce qui est important, en 2007, sur la côte ouest du Japon, une des centrales de TEPCO est touchée par un séisme. Et donc pendant 3 ans, il va y avoir des études pour comprendre les anomalies qui ont été créées par ce séisme, comment il faut les traiter, comment il faut les résoudre. Et donc en fait, il va être très très occupé sur cette question du séisme. Ensuite, il va être nommé à la tête de Daiichi. Et donc, quelques mois plus tard, il va être confronté au pire séisme que le Japon n'ait jamais connu.
Et en même temps, ce qui est très troublant dans ce récit que moi j'ai lu, parce que c'est extrêmement troublant, mais si parfois c'est technique, c'est qu'il est en train de faire de la paperasse, au fond, quand ça arrive. Il ne se rend pas compte tout de suite, mais quand il se rend compte, là, c'est...
Oui. En fait, il raconte sa journée. Donc, sa journée, il est occupé à effectivement préparer des réunions et à remplir des fichiers Excel pour suivre de la planification et des budgets. Arrive le séisme, avec de très très nombreuses répliques. Et à ce moment-là, il doit rejoindre la salle de crise. Et à sa grande surprise, la salle de crise, qui est le seul bâtiment antisismique de tout le site, est occupée par plus de 400 personnes qui sont venues s'y réfugier. Donc en fait, vous vous retrouvez dans une salle de crise qui est un refuge plutôt qu'un endroit de commandement.
C'est-à-dire aussi, Sébastien Travadel, que toutes les normes, tout ce qui a été décidé, tous les manuels, tout ce qu'on prévoit de faire en cas de catastrophe, en fait, on se rend compte à son récit que rien ne tient. Mais rien ne tient du tout. On bascule dans le cauchemar, l'horreur. Il n'y a plus que l'humain qui peut tenir, d'ailleurs.
Alors oui, et ce qu'on découvre aussi avec ce récit, c'est que ça ne se fait pas en un instant. C'est-à-dire que finalement, il va lui falloir presque une heure pour admettre que la situation est réellement au-delà de tout. Puisqu'en fait, les lumières vont s'éteindre dans la salle de crise, une fois que le tsunami va inonder les générateurs. Donc là, c'est de la stupéfaction, il le dit très bien. Et néanmoins, lui et ses collaborateurs vont s'accrocher à la paperasse, toujours, en essayant d'accomplir quelques actes administratifs pour un peu reprendre prise. Et il n'y a pas un bruit en salle de crise à ce moment-là. Ce qui va peut-être faire la force de Yoshida, en tout cas on peut l'analyser comme ça, c'est que donc d'une part il a été en charge, comme l'a dit Franck, quelques années avant, de renforcer la centrale, mais il a également vécu quelques années plus tôt une inondation de la centrale par, bon évidemment, une vague beaucoup plus petite, mais qui avait en fait endommagé déjà les générateurs de secours. Donc il y avait eu des mesures de renforcement, mais déjà dans son imaginaire, il y avait l'idée que cet accident prémonitoire, en quelque sorte, pouvait mener tout droit à une catastrophe absolument incontrôlable. Alors ça n'a pas été le cas, donc quelque part il l'avait mis dans un coin comme quelque chose potentiel, mais qui était encore loin de pouvoir s'actualiser. Et on peut voir finalement dans sa gestion de crise qu'assez rapidement il va connecter sa situation du jour, le 11 mars 2011, avec cet événement et se dire que finalement ce pire qu'il n'avait pas osé envisager est arrivé et maintenant il faut faire face. Donc quelque part, en connectant cette expérience, donc ça en fait vraiment l'homme de la situation effectivement, puisque on est bien incapable de dire comment il aurait pu réagir et reprendre prise s'il n'avait pas eu cette expérience précédente qui quelque part avait déjà placé dans son imaginaire catastrophiste la possibilité de la perte totale.
D'où l'importance, hein, on va y revenir, de faire récit, que ça coïncide avec notre imaginaire, parce que sa force, on s'en rend compte, c'est qu'il a compris d'un seul coup que tout était foutu et que donc il fallait, enfin je peux pas le dire autrement, et que donc il fallait y aller. Il a accepter ce qu'au fond on ne lui aurait jamais conseillé d'accepter, c'est-à-dire que c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on va mourir et qu'on va tous mourir et que finalement il faut empêcher que le reste du Japon ne meure avec? Enfin, on en est là.
Oui, tout à fait. En fait, à partir du moment où il a ce point de mire qui est la destruction absolue qui devient possible, il l'accepte. À partir de là, il peut complètement revoir sa situation, puisqu'en fait, il va essayer de dégager des moyens d'action. Alors concrètement, il n'en a pas. Donc, il va être obligé d'envoyer des gens sur le terrain pour découvrir de nouveaux moyens d'action. Et donc, finalement, en gros, il est en train de lutter contre un scénario, vraiment au sens du récit, un scénario qui semble inéluctable. Et son meilleur moyen d'action, c'est de faire en sorte que ce scénario n'arrive pas finalement. Donc, il se redonne du possible en se disant, eh bien, au moins, je lutte au présent sur ma situation pour faire en sorte que ce qui me semble absolument inéluctable finalement n'arrive pas. Donc, déjouer un peu la prophétie.
Déjouer la prophétie. Vous parlez de scénario. Alors il y a eu au Japon évidemment, il y a beaucoup de mangas aujourd'hui qui sont inspirés de cette catastrophe. Dans ce pays, on le rappelle, qui a été le seul à recevoir la bombe atomique. Il y a eu des films prémonitoires, notamment vous m'avez cité Dreams, un rêve de Kurosawa. Je propose là maintenant de nous arrêter sur la bande-annonce d'un film Land of Hope, réalisé en 2012, donc après la catastrophe de Fukushima, par Sion Sono. Une fiction très inspirée de la réalité japonaise qui met en scène un tremblement de terre qui provoque l'explosion d'une centrale nucléaire nommé, écoutez bien, Nagashima. Extrait donc de la bande-annonce de Hope, film réalisé par Sion Sono en 2012, mais aussi de Dreams, film prémonitoire de Kurosawa. Alors dans le film Land of Hope, directement inspiré par la catastrophe de Fukushima, la centrale s'appelait Nagashima, Nagasaki, Hiroshima. On peut dire que cet imaginaire-là au Japon, ça joue et que ça permet de se faire le récit ou de s'approprier ce récit de l'innommable.
Je ne sais pas si ça joue. Parce qu'on n'est pas suffisamment éduqué et cultivé sur ces aspects culturels. Par contre, ce qui est très saisissant, c'est une anecdote que m'a racontée en introduction de l'émission. Vous avez cité Catastrophisme éclairé.
Du philosophe Jean-Pierre Dupuis.
Voilà, d'un de nos maîtres à penser, Jean-Pierre Dupuis. Et donc, en fait, lors d'un workshop que nous avons eu en 2014 à l'Université de Berkeley, Jean-Pierre Dupuis nous racontait que après le tsunami de 2001 en Asie du Sud-Est, les États-Unis ont installé des centres de détection de tsunami. Et l'un d'entre eux a été installé sur l'île de Tinian Island. Et cette île, c'est l'île de laquelle sont partis les bombardiers américains en août 1945 pour larguer les deux bombes atomiques américaines.
Sur Hiroshima et Nagasaki.
Hiroshima et Nagasaki. Là où l'histoire est entre guillemets belle, et c'est la fin de l'histoire que j'ai racontée à Jean-Pierre Dupuis, et je la tenais d'un journaliste japonais qui s'appelle Kadota, c'est qu'en fait le site de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était une base d'entraînement des kamikazes japonais. Donc finalement, Nagashima ou Tinian Island et Fukushima Daiichi, base d'entraînement des kamikazes japonais, quelque part c'est l'histoire qui se
répète. Enfin, voilà. C'est une espèce de boucle historique, d'où l'importance sur laquelle vous insistez de mêler notre imaginaire, de faire le récit finalement de Fukushima, de se le réapproprier quoi. Vous-même, vous êtes quand même au départ chercheur, scientifique, ingénieur, et au fond, vous dites c'est quoi ? C'est la faillite de l'ingénierie et il faudrait que ce soit quoi l'humain qui reprennent le dessus. En l'occurrence, là, ce directeur de la centrale, ils se sont conduits en héros, ils étaient sûrs de mourir, et ils ont été... Il faut que ce soit quoi, l'humain qui prenne le dessus
Alors, en fait, là, c'est une faillite d'ingénierie.
Sébastien.
C'est une faillite d'ingénierie, mais en l'occurrence, ce sont toujours des ingénieurs qui ont repris le contrôle.
C'est vrai.
Et donc, c'est moins le fait de condamner l'ingénierie, qui nous importe, c'est que de la repenser. Et de se dire que finalement, d'ailleurs, on avait commencé un peu comme ça les travaux, avec la notion d'ingénierie de l'urgence, de se dire que finalement, au même titre qu'on a des médecins urgentistes, on pourrait avoir des ingénieurs urgentistes.
Et qu'il faudrait qu'ils soient formés pour ça.
En fait, là, déjà, ça suppose de s'interroger sur la manière dont on innove techniquement en situation telle qu'à Fukushima, c'est-à-dire en fait où concrètement les ressources sont totalement anéanties, et surtout où il y a un véritable danger de mort. Et donc en fait il faut totalement repenser le rapport au monde en fait dans lequel s'inscrit l'action à ce moment-là. Et il faut l'admettre comme tel, c'est-à-dire qu'il est totalement absurde d'imaginer finalement produire avec, de prévoir à l'avance ce que sera la réponse technique. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de comprendre quelle est la rationalité des personnes sur site, qui en l'occurrence étaient des ingénieurs et des techniciens, toujours, mais comment ils ont réorganisé leur action, leur activité, repensé leur métier, réinventé leur métier, pour reprendre prise sur les machines.
On peut se demander si vous êtes entendu, on va se demander si vous êtes entendu autour de la question pourquoi et comment faire le récit de Fukushima en musique et avec révérence et référence. Je vous propose d'écouter HK et les Saltimbanques sur RFI, Fukushima, mon amour.
L'océan nous a marché dessus.
Fukushima, mon amour, HK et les Saltimbanques sur RFI. Autour de la question comment faire le récit de Fukushima, nous sommes en compagnie de Franck Garnieri et de Sébastien Travadel du Centre de recherche sur les risques et les crises de mines ParisTech. Tous deux viennent de faire traduire et de publier aux presses universitaires de France le récit du directeur de la centrale de Fukushima Daiichi, aujourd'hui décédé, qui a réussi à empêcher le pire, l'explosion nucléaire. Pourquoi et comment, quelles leçons, est-ce qu'il est possible d'ailleurs de tirer les leçons de son audition, de son témoignage hors norme? Nouvelle question soulevée par notre confrère Caroline Tourbe du mensuel Science et Vie.
Après l'accident de Fukushima, on a eu l'occasion d'avoir des études de suivi, ce qui a été très difficile après l'accident de Tchernobyl, parce qu'il y a eu des changements politiques, des changements même de frontières, enfin tout a été modifié évidemment avec la chute de l'Empire soviétique. Est-ce que cette fois, on estime qu'on va pouvoir tirer des enseignements de cet accident, ou là encore, pour des raisons que je n'ai pas, on n'y arrivera pas?
Qui veut répondre, Sébastien Travadel?
Oui, alors, donc en tout cas, c'est la volonté affichée, puisque le directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique a lui-même dit que Fukushima était finalement une fantastique opportunité d'apprendre. Donc on lui laissera les propos. En revanche, on est bien dans cette logique du retour d'expérience dans lequel on fera mieux demain en essayant d'analyser proprement, c'est-à-dire objectivement et scientifiquement, l'accident. D'ailleurs, les rapports qui ont été produits, notamment, nous avons étudié en profondeur les rapports des autorités japonaises, du Parlement et du gouvernement, se disent d'entrée comme des rapports conduits selon une démarche objective avec des personnages considérables au niveau scientifique, des personnages de l'académie, etc. Maintenant, la question, c'est finalement, les conclusions sont-elles si objectives que cela? Mm-hmm. Alors nous, on ne remet pas du tout en cause l'objectivité ou la démarche, mais finalement, on s'est demandé sur quoi ça se fondait, et donc on a fait la cartographie de l'argumentation de ces rapports, et puis on s'est assez vite rendu compte que quel que soit le mode d'argumentation choisi, on aboutissait à la conclusion suivante: en gros, les normes de l'AIEA antérieures à l'accident auraient permis d'éviter l'accident si elles avaient été bien appliquées.
Donc on reste dans le même schéma.
Donc on reste finalement à l'intérieur.
C'est une question de normes.
En fait, c'est-à-dire qu'on reste, non seulement c'est une question de normes, mais surtout les normes antérieures finalement étaient suffisantes pour prévenir l'accident. C'est simplement que on les a un petit peu négligées, les Japonais s'en étaient un peu écartés, etc. Ça, c'était les conclusions. Ce sont aujourd'hui les conclusions principales tirées. Et donc, évidemment, il y a des. Je suis conscient qu'il y a aussi en parallèle les travaux pour renforcer les centrales sur certains aspects. Mais principalement, c'est l'idée de dire que la philosophie de la sûreté telle qu'elle prévalait avant l'accident reste valide dans ses fondements. Et finalement, il n'y a qu'à être meilleur dans l'application. Et donc la question devient, mais alors pourquoi, est-ce bien raisonnable? Et est-ce bien raisonnable? Et c'est là que prend toute sa valeur le récit de Yoshida, puisqu'en fait, ce que nous dit Yoshida, c'est que, passé le tsunami, le manuel de gestion de crise ne servait plus à rien. De toute façon, il le dit clairement, il ne sait même pas où il était. Et en fait, les manuels prévoyaient notamment qu'on aille prendre quand une source électrique manquait sur un réacteur, qu'on allait la prendre sur le réacteur d'à côté. Mais en l'occurrence, elle n'y avait plus du tout. Donc ça ne servait à rien. Et quand bien même on aurait pu apporter des sources électriques, on ne pouvait pas la distribuer puisque les panneaux de distribution eux-mêmes avaient été détruits.
Voilà. C'est-à-dire aussi, Franck Garnier, que ce que vous mettez en lumière avec ce témoignage-là, c'est que ce n'est pas une histoire de normes, ce n'est pas une question de normes, mais qu'en fait, tout notre sentiment de sécurité, de normes sécuritaires, de manuels de survie, il n'y a rien qui tient, en fait, quand il y a véritablement une catastrophe. Et c'est de ça dont il faudrait peut-être qu'on se rende compte.
Oui, en fait, c'est... Il faut se rendre compte que en France, ça avait été qualifié comme un accident impensable, un impensé. C'est-à-dire qu'en fait, on avait appris qu'on pouvait perdre un réacteur à TMI, qu'on pouvait perdre un réacteur à Tchernobyl. On n'avait jamais imaginé qu'on pouvait perdre 4 réacteurs à Daiichi, plus 2, puisqu'il y a 6 réacteurs à Daiichi, plus les 2 à 10 km de Daini. Donc en fait, ça c'était un impensé.
Donc, un impensé des normes de sécurité, mais pas un impensé de Kurosawa dans son film Prémonitoire Dreams, qui avait bien prévu tout ça.
C'est ça, 1990, donc dans une des scènes qui s'appelle le Mont Fuji en rouge. Donc le Mont Fuji, hein, qui est l'emblème du Japon, un volcan, explose. Et en explosant, il entraîne l'explosion de toutes les centrales nucléaires japonaises. Et dans le film, il y a un des acteurs, qui est un ingénieur, qui a un rôle important, et qui se lamente sur son propre sort, et qui questionne, on en parlait tout à l'heure, de la faillite de l'ingénierie, et jusqu'où est allée la vanité de l'homme. Donc la vanité de l'homme a été jusqu'à inventer une technologie qui a permis de colorer la radioactivité.
Qui est normalement invisible.
Qui est invisible. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on voit dans le Mont Fuji en rouge? On voit des traînées rouges et violettes qui symbolisent la contamination, quoi.
Et qui symbolise la fin du monde, là,
en l'occurrence. Et qui symbolise la fin du monde, oui, en l'occurrence. Oui.
C'est-à-dire que du coup, il faut en appeler à notre imaginaire et quoi? Et accepter la réalité que nos industries, nos énergies, par exemple être pour ou contre le nucléaire, sont capables de nous détruire totalement, nous anéantir complètement, et en tout cas ne peuvent pas fonctionner avec des normes... On ne peut pas le prévoir à l'avance, ce que vous disiez, Sébastien.
Alors, oui, alors c'est par exemple, on revient sur la conclusion du directeur, ou plutôt, en fait, c'est son introduction du directeur de l'AIEA sur le rapport publié en 2015 sur l'accident, qui fait un peu autorité. Hein. Bon, on peut lire que donc les actions des personnels sur site ont été extraordinaires, mais n'ont pas été optimales. Et donc on est toujours dans ce mythe de l'optimalité, et donc la question devient comment on éduque l'humain pour qu'il applique de manière optimale des normes. Au lieu d'inverser la question et de se dire finalement, est-ce bien raisonnable? Enfin, les normes correspondent-elles à quelque chose finalement d'applicable et ne sont-elles pas purement idéales? Et donc on propose d'inverser la procédure et finalement de vraiment écouter ce que nous disent les acteurs.
Et ce qui se passe réellement.
Et ce qui se passe réellement, parce qu'aujourd'hui il faut savoir que le vécu des acteurs se résume dans les rapports officiels à quelques lignes. Donc c'est assez faible.
Et à chaque fois on les reprend, enfin lui à chaque fois on le reprend sur des questions techniques et pas sur ce qu'il dit.
Et de toute façon, ce qui est à la fin, donc le récit de Yoshida a servi à alimenter le rapport de la commission gouvernementale, mais à la fin dans la commission gouvernementale, on ne retrouve que quelques lignes globalement pour synthétiser l'effort incroyable des gens sur site. Et donc finalement, parce que assez vite,
l'héroïsme absolu.
Voilà, mais finalement, la conclusion des autorités est de se dire, de toute façon, tout cela n'est pas optimal. Donc il faut mieux agir sous stress, il faut se former à l'action sous stress, etc. Bon, et donc on propose de plutôt regarder ce qui se passe réellement en situation de crise et de partir de là. Et donc, à partir de là, de voir s'il faut normer ou pas, ou à quoi ça peut correspondre. Mais partons déjà de ce qu'un humain fait lorsqu'il a perdu totalement le contrôle.
Alors, partons de ce qu'un humain fait lorsqu'il a perdu le contrôle. C'est pas tout à fait ce qui se disait au Sénat la semaine dernière. C'était la présentation du rapport annuel de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Dominique Minière, le directeur exécutif de la Sûreté Nucléaire pour le parc EDF, assurait que l'électricien français a tiré les leçons de cette catastrophe de Fukushima et que c'était une obsession pour notre autorité de sûreté nucléaire, ne jamais avoir de Fukushima en France. Il avait d'ailleurs en main votre récit, le récit du directeur de la centrale que vous avez publié, et il expliquait en toute bonne foi comment il pensait donc avoir trouvé la parade avec la création d'une force d'intervention rapide. On l'écoute et vous réagirez ensuite.
On a prévu une farm qui est capable d'intervenir sur un site complet. sur un site comme Gravelines, qui fait 6 tranches. On a prévu une farm qui est capable d'intervenir sur les 6 réacteurs en parallèle, de rattraper ce genre de situation. Quand on l'a conçu, on s'est dit, supposons, on ne sait pas ce qui se passe, mais on suppose qu'il n'y a plus personne sur la centrale, que l'astreinte ne peut pas venir, que tous les opérateurs dans le coin qui étaient là pour prendre la conduite de la centrale ont été tués par l'événement qui est apparu. On ne sait pas ce que c'est. Et donc, finalement, la seule façon de faire, c'est de projeter une force. Mais une force qu'on a préparée, qu'on a entraînée et qui est prête à prendre ce genre de choses. Et ça peut être qu'une force de nous, parce que c'est nous les responsables. Et c'est pour ça qu'on veut que ce soit une force EDF. Tout se joue dans ces premiers 48 heures, en fait. Et vous regardez le livre, enfin, vous regardez ce qui s'est passé à Fukushima, tout se joue dans les 48 heures. Si vous ramenez de l'eau et de l'électricité, c'était l'obsession du directeur du site, ramener de l'électricité. Simplement, quand c'est pas anticipé, pas préparé, vous n'avez pas de force pour le faire et que vous êtes obligé, excusez-moi l'expression, de vous débrouiller au dernier moment, vous êtes quand même en situation de fragilité beaucoup plus grande que si vous l'avez pensé, organisé et quelque part préparé. Tout se joue dans la préparation. C'est vraiment notre obsession. C'est comment ne jamais, jamais, jamais avoir de Fukushima.
Est-ce que vous voulez réagir à cet extrait qui est très troublant ? Tout se joue dans la préparation, et donc on imagine, mais alors le pire absolu, c'est-à-dire une centrale qui ne fonctionne plus, où tout le monde est mort, et on envoie une force de gens entraînés pour aller là où tout le monde est mort.
Oui. Personnellement, quand j'ai visualisé la totalité de l'audition, et c'est le seul passage où je suis quasiment tombé de ma chaise, j'étais aussi extrêmement ému, parce qu'en fait, mes parents habitent à quelques kilomètres d'une centrale nucléaire de la vallée du Rhône. Et je me suis dit, comment ça peut être reçu dans l'opinion publique de dire que dans une centrale où il y a 2, 4, 6 réacteurs, donc entre 1000, 2000 ou 3000 personnes qui travaillent, tout le monde est mort. Ça me dit, c'est un cauchemar absolu. Et ce qui m'a touché, bouleversé, et quelque part m'a gravement interpellé, c'est de me dire, mais finalement, si on se rend compte que 3000 personnes sont décédées, peu importe la raison, comment peut-on imaginer projeter une force, aussi bien entraînée soit-elle, avec des moyens qui au final sont très réduits, pour aller combattre un ennemi invisible et une installation nucléaire livrée à elle-même, tel que Yoshida n'a pu le démontrer dans son témoignage. Donc j'ai été assez déstabilisé. Et finalement, on reproduit là, à la lettre, les enseignements de Fukushima. Parce que nous dit Yoshida dans sa lutte contre son installation industrielle dont le contrôle lui a échappé? Ils étaient seuls. C'était une force de nous, comme dit Dominique Minière. Le « nous » en question, c'était des TEPCO. Et donc là, le « nous » de Dominique Minière, c'est des EDF. Mais quand on se rend compte de l'ampleur des conséquences qu'un tel accident pourrait avoir, on voit mal comment les agents d'un opérateur privé, même si l'État français est actionnaire d'EDF, pourraient à eux seuls résoudre une telle crise. Et donc c'est là, quelque part, ça interroge sur... finalement,
sur l'ampleur de cette tragédie et sur, finalement, notre rapport à une tragédie pareille qui implique la mort, qui implique l'anéantissement. Enfin, là, on n'est pas dans des normes, on n'est pas dans du papier, on n'est pas dans des chiffres. On est dans une tragédie absolue.
Oui.
Et c'est ça que vous voulez qu'on prenne en compte, qu'on pense ou qu'au moins on ose dire?
À partir du moment où on a admis que dans le nucléaire, on a appris il y a quelques années que ça pouvait être des accidents industriels comme les autres. Donc à partir du moment où il y a eu TMI, puis Tchernobyl, et 1 et 2, il pouvait y avoir 3. Et maintenant qu'il y a eu 3, il peut y avoir 4. Et donc en fonction de l'intensité du 4, la question qu'on doit se poser, c'est quels sont les moyens qu'on doit mettre en face pour s'assurer que 4 soit au niveau du 3 et que 4 ne dépasse pas x5, x10, x50 le numéro 2 qui était Tchernobyl.
Autour de la question de Fukushima et de notre finitude, pour nous éclairer, vous avez choisi d'écouter Mozart sur RFI, extrait de son Requiem.
Thank you.
autour de la question.
Caroline Lachowski.
Mozart, extrait du Requiem, Lacrymosa sur RFI. C'est votre choix, Sébastien Travadel, et pour cause autour de la question pourquoi et comment faire le récit de Fukushima. Vous nous dites, dans ce récit hein, du directeur de la centrale, au fond, qu'il faut peut-être aussi faire appel au sacré et pas seulement au dérisoire de solutions techniques qui nous redonneraient un contrôle qu'on a totalement perdu.
Oui, alors au départ, plus largement, il faut faire appel à l'imaginaire. Et pourquoi le Requiem de Mozart? Parce que ça fait appel à un très beau texte du philosophe Cornelius Castoriadis, qui s'appelle L'imaginaire, la création dans le domaine social historique. Et c'est un texte dans lequel, Castoriadis dit, au lieu de partir de lois qui expliqueraient, lois biologiques ou autres, qui expliqueraient l'évolution vers un état, soit le Requiem de Mozart et partons de cet imaginaire comme mode d'existence. Et finalement, c'est un peu une provocation, il commence son texte comme ça, pour expliquer en fait, l'imaginaire est partout. Et lui, il parle de signification imaginaire sociale. Et finalement, ce que nous donne à voir et à saisir en partie le récit de Yoshida, c'est l'imaginaire collectif dans lequel les acteurs sur site ont agi. C'est-à-dire, ils se sont reconstruits un imaginaire pour pouvoir agir. Alors, ça veut dire aussi...
C'est-à-dire qu'on était vraiment à l'anéantissement, à la catastrophe. Ils s'imaginaient, enfin, ils se voyaient totalement perdus. Plus rien ne fonctionnait, aucune norme possible. Et il a fallu reconstruire...
Un imaginaire qui s'est traduit finalement comme un imaginaire de combat contre des bêtes déchaînées, les réacteurs. Cet imaginaire de combat, c'est aussi assorti d'une idéalisation de leur action, puisqu'ils se sont vus comme les défenseurs de la terre de leurs ancêtres. Ce qui leur a permis de prendre des décisions, par exemple, de manière autonome, de décider qui allait prendre un risque de mort en allant ouvrir certaines vannes, etc., au moment, au climax de la crise. Et c'est aussi à l'intérieur d'un imaginaire que prend sens la notion de temps. Yoshida nous montre clairement une recomposition de la temporalité, puisque pour lui, la temporalité était proche de ce que Jean-Pierre Dupuy appelle la temporalité du projet, avec une catastrophe à venir, certaine, et donc ce futur certain...
Un sort de compte à rebours.
Voilà, ce futur certain qui va déterminer des actions présentes, là où le calcul probabiliste et technique fait l'inverse, puisqu'il part du présent et de l'incertitude du présent pour des futurs possibles. Et donc, finalement, on voit bien que ce qui traverse complètement le texte, le récit de Yoshida, c'est cette recomposition d'un imaginaire social, qui est celui en fait de ces opérateurs, qui va leur permettre de reprendre prise et d'agir, et de donner sens à leur action. Parce que finalement, dire « il faut faire ceci, il faut faire cela », c'est très bien, mais il faut d'abord que l'action ait un sens. Et un sens au sens profondément humain, c'est-à-dire qu'on y retrouve des notions identitaires, etc.
Est-ce que vous êtes entendu, alors par les autorités de sûreté nucléaire, par nos gouvernants, parce qu'on a l'impression que ce que vous nous invitez à faire, c'est vraiment de prendre la question à l'envers, hein, de ne pas partir d'un futur qu'on imaginerait et de normes techniques qui pourraient s'appliquer et qui n'ont pas été appliquées de manière optimale par des gens qui au fond sont conduits comme des héros et qui ont réussi à redonner sens et à survivre et à éviter le pire. Est-ce que vous êtes entendu, Franck Garnieri?
Je pense qu'on commence à être entendu au sens qu'on est lu. Et le gros avantage du témoignage de Yoshida, c'est qu'il parle à beaucoup de gens. Je pense qu'il parle aux exploitants du nucléaire, mais il parle aussi à tout exploitant d'une activité industrielle. Et il peut aussi parler à tout citoyen que nous sommes. Parce que finalement, c'est pas un discours technicien. C'est vraiment un témoignage sur le traumatisme et les ressorts de la lutte qu'ils ont mis en œuvre avec des moyens qui étaient extrêmement dérisoires au regard des enjeux. Donc je pense que ça remet au centre du débat ce qu'on disait depuis le début de l'émission sur la place de l'humain ou de ce qui fait humanité dans la conduite d'une installation à risque. Pour laquelle on ne peut pas exclusivement se contenter de technologies, d'automatismes et de procédures.
Et ça remet en place l'humain, ça remet aussi en place quelque chose qu'on a un peu eu tendance à dire par rapport à ces incidents nucléaires, c'est-à-dire que là c'est une histoire japonaise, c'est le tsunami, c'est les séismes, c'est un problème japonais. Tchernobyl, c'était un problème de l'Union soviétique. Donc c'est un peu facile peut-être pour nous de dire, or ce que vous nous montrez là, quand on parle de tragédie, quand on parle de sens, c'est vraiment l'humanité, même si chacun fait appel à son propre imaginaire. On est vraiment là dans notre humanité et ça nous concerne tous.
Oui.
C'est pas un problème japonais, russe ou français,
c'est
par malheur.
En fait d'ailleurs, quand la plus grande surprise que l'on a eue quand on a fait traduire l'audition de Yoshida, et j'en profite pour témoigner d'un immense merci à notre traductrice, Madame Tomoko Takesana, qui a fait un travail extraordinaire. En fait, on a été très surpris parce qu'en fait, à part son nom, on ne voyait pas que c'était un Japonais. Et on voyait d'autant moins que c'était un Japonais qu'il était assez combatif, assez indiscipliné,
oui, assez indiscipliné, colérique, hein, oui.
Etc., etc., etc. Et donc finalement, ça aurait pu être le témoignage de n'importe quel directeur de centrale nucléaire, du fait même de la normalisation de ce type de technologie, puisqu'en fait, les pays qui fabriquent des centrales nucléaires ne sont pas si nombreux que ça. Donc finalement, on se retrouve autour d'un corps de technologie qui est assez semblable. Donc l'argument de l'exceptionnalisme japonais, que ce soit au niveau culturel, au niveau du territoire, les séismes, les tsunamis, c'est un argument qui fondamentalement ne tient pas face à une technologie qui est mondialisée, quoi.
À propos de technologie, alors aujourd'hui, autour de la question de Fukushima, il y a des pistes hein, tout de même d'ingénierie technique qui sont mises en place après la catastrophe, notamment pour la décontamination et la dépollution du site. Environ 22 millions de mètres cubes de terre contaminés par la radioactivité ont été retirés de la surface du sol dans le but de restaurer hein, au plus vite l'accessibilité de la zone. Un nouveau procédé justement pour décontaminer ces terres radioactives vient d'être expérimenté avec succès à Fukushima par des chercheurs français du CEA qui ont notamment réussi à séparer les particules de terre contaminées par le césium. Je propose d'écouter Pierre Chakvardiev, qui est coordinateur au CEA de ce projet baptisé Déméter. Il est joint par Charlie Dupuy et il explique justement comment décontaminer au césium.
C'est l'élément principal aujourd'hui suite à l'accident de Fukushima qui reste dans l'environnement. Et c'est lui qui est la source de radioactivité résiduelle. Sa demi-vie est de 30 ans. Tous les 30 ans, il diminue de la moitié de son activité, donc c'est un élément qui est relativement persistant et pour lequel il faut pouvoir débarrasser les terres contaminées si on veut retrouver un usage normal des terrains.
Et en fait, après l'accident de Fukushima, 22 millions de mètres cubes de terres contaminées ont été retirés de la surface des sols.
Tout à fait, c'était une mesure d'urgence qui a exploité la particularité que le césium a la propriété de se coller de manière très forte avec les particules argileuses du sol et donc de ne pas migrer en profondeur lorsqu'il y a des pluies ou des arrosages. Et donc dans les 5 premiers centimètres, on a l'essentiel du césium qui reste fixé. Et donc en enlevant cette couche superficielle de 5 à 10 cm de terre, on enlève l'essentiel du césium qui s'est déposé après le passage du nuage radioactif. Alors le plus facile, ou en tout cas le plus rapide, c'était de décaper les terrains plats qui correspondaient au sol agricole, au sol maraîcher et au sol où la population pouvait être exposée, par exemple les cours d'école, les jardins publics, pour rendre l'environnement le plus propre possible.
Et que faire en fait de ces 22 millions de mètres cubes de terre ?
C'est un véritable enjeu par le volume que cela représente. Donc régulièrement, depuis quelques années, le ministère de l'Environnement japonais expérimente différentes technologies de décontamination. Donc l'enjeu, c'est de réduire ce volume de 22 millions de mètres cubes. Notre technologie a la particularité de pouvoir, d'un côté, réduire le volume en concentrant la radioactivité dans les particules de type argileux, et le reste de la terre, qui est largement décontaminée, on peut lui redonner un usage ultérieur puisqu'elle est en dessous des seuils dits contaminés pour la réglementation japonaise.
Franck Garnieri, si vous voulez réagir, c'est un chantier considérable, monstrueux. C'est possible de décontaminer les sols, la zone de Fukushima ?
C'est déjà une très très bonne nouvelle au regard des enjeux parce qu'en fait, on a eu l'occasion de se rendre dans la zone dite interdite et de voir ces chantiers. Donc en fait, effectivement, c'est de la terre qui est retirée, qui est mise dans des immenses sacs en plastique, qui sont eux-mêmes stockés dans des entrepôts à l'air libre, protégés par des clôtures. Et ça, c'est sur des kilomètres et des kilomètres carrés. Donc en fait, c'est un chantier de titans. Donc ce qui est quelque part positif, c'est que suite à ce genre d'accident, on est en capacité de développer des technologies pour décontaminer. Donc, par contre, le chantier, c'est colossal, quoi.
Donc après, au fond, après la catastrophe, on est capable de développer des technologies pour décontaminer. Reste à penser autrement l'impensable, parce que tout ça est quand même impensable, Sébastien Travadel.
Alors oui, et alors pour montrer peut-être une aparté, mais pour montrer que finalement, on n'est pas exempt d'imaginaire, même dans la partie décontamination. Lorsque nous avons visité le site, nous avons été frappés par un contraste. Il faut s'imaginer une zone de colline absolument recouverte de béton, puisqu'en fait, pour fixer la radioactivité au sol, des techniciens viennent et injectent du béton partout sur le sol. Donc absolument toute la nature est recouverte de béton. On se promène dans un champ de béton, et avec des tuyaux qui partent de partout, etc. Enfin, de la vraie... Et à Fukushima, et donc sur la centrale, j'entends, avec de la haute technologie. Et... des moyens absolument extraordinaires pour essayer d'arrêter avec des murs de glace les infiltrations d'eau, etc. Et alors par contre, il y avait au milieu du béton quelques trous d'où émergeaient des cerisiers en fleurs.
Et nous avons été étonnés. Étonnant, voilà, de cerisiers en fleurs au milieu de ce béton qui recouvrait la centrale
qui recouvrait
de Fukushima.
Tout, qui recouvrait tout le sol, etc. Et donc on s'est dit, mais pourquoi avoir fait le tour du cerisier alors que par ailleurs tout le reste est rasé? Et là, la réponse de nos interlocuteurs était que c'est vraiment très important de conserver ces cerisiers qui étaient là avant l'accident. Et donc ça nous a interpellés, on a essayé de comprendre un peu mieux. Et finalement, c'est toute la signification du cerisier en tant que renouveau perpétuel, puisque le cerisier va revenir en fleurs chaque année, et ça, les Japonais attachent beaucoup d'importance à ce moment. Et donc c'est vraiment le renouveau, la vie qui revient, et cette surprise de la vie qui revient chaque année que représente le cerisier. Et quelque part, on peut l'associer aussi au fait que les Japonais se reconstruisent là-dedans, puisque finalement la technologie américaine défaillante est anéantie, eh bien ils en inventent une nouvelle, la technologie japonaise qui va reprendre le contrôle.
L'imaginaire du cerisier pour faire face à la catastrophe, pour faire résonner notre imaginaire collectif. Merci infiniment à tous les deux.
Merci.
D'être venus en direct partager avec nous ce récit de Fukushima, quand le directeur de la centrale parle, un récit de Fukushima qui est un ouvrage d'utilité publique paru aux presses universitaires de France.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI. Au plaisir de vous retrouver demain, la tête dans les étoiles, pour nous interroger sur les astronomies du passé, de Stonehenge aux pyramides d'Égypte ou Maya, avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Marjorie Bertin en coulisses. Merci de votre curiosité à l'écoute de RFI.